Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Louis. L'an dernier, l'écrivain Édouard Louis a reçu le prix littéraire RSA 38 de la part de l'Association des allocataires du RSA de Grenoble. L'auteur, méfiant face au système des prix littéraires en France, s'est dit cependant heureux de cette récompense et a annoncé à cette occasion. Ce prix renforce ma conviction que la littérature peut changer quelque chose et être plus qu'un simple divertissement pour privilégier. Ce sont justement les livres qui ont permis à l'écrivaine Faïz Aghen, notre invitée du jour, de ne pas rester à une place assignée. À 19 ans, elle publie son premier roman, Kif Kif Demain, et c'est un succès international. Tout droit sorti de la ville de Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, il raconte le quotidien de Doria, une jeune fille de 15 ans. Pour certains, ce n'est qu'un document sur le monde lointain des banlieues, un monde qu'ils ne connaissent pas et regardent de loin. Mais la jeune femme persiste et signe en cette rentrée littéraire son sixième livre, La Discrétion, un récit familial sur plusieurs générations entre la France et l'Algérie. Sur son chemin de romancière, un auteur accompagne Faïz Aghen. Il est américain, noir et homosexuel. Dans chacun de ses livres, il nous rappelle que la littérature n'est pas un territoire confiné et réservé, mais qu'elle peut aussi être la voix des sans-voix et accompagner les luttes. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
C'est un petit appartement, donc il a fallu vraiment penser la place de chaque chose. Bon, ça a du bon, hein, parce que du coup, on élimine le superflu. Mais donc, la bibliothèque, qui est au-dessus de mon bureau, dans le salon, c'est un petit espace de travail qu'on a aménagé. En fait, c'est des étagères, donc au-dessus du bureau, où les livres sont plus ou moins classés par taille. Bah, c'était ça l'idée au début. Mais en fait, ça devient un petit peu aléatoire, là. Donc il y a un peu de tout, il y a des livres très anciens que j'ai depuis très longtemps et d'autres que je viens d'acheter. Après j'en fais pas un mausolée non plus, hein, de cette bibliothèque. Et comme je dis toujours, je trouve que ne pas posséder de livres, c'est pas grave. Que ce qui est grave, c'est de ne pas avoir d'histoire à raconter. Parce que pour moi, en fait, avoir une bibliothèque chez soi, c'est un luxe. Et petite, nous on n'avait pas de bibliothèque à la maison, c'est à travers l'école que j'ai été amenée à lire. Et j'ai eu très tôt cet appétit, en fait, cette curiosité pour les livres. Donc à la maison, le seul livre qu'on avait, c'était le Coran. Donc un seul livre et pas des moindres, le livre saint. Donc j'avais déjà cette idée aussi qu'il y avait une dimension sacrée autour du livre, puisque je voyais mes parents le prendre avec soin, l'ouvrir avec plein de délicatesse et voilà, et le ranger d'une manière assez voilà. Donc il y avait quelque chose vraiment de sacralisé déjà autour du livre et que j'avais cette image-là depuis toute petite. Et le premier lieu de partage pour moi autour du livre, ça a été la bibliothèque municipale. J'étais capable, moi, d'emprunter parfois des livres le matin et de les rendre l'après-midi même. Je me rappelle le samedi surtout. J'avais quoi, un truc un peu boulimique, en fait. Je dévorais les livres littéralement. J'ai toujours eu une préférence pour les romans parce que j'aime l'intimité, en fait, qui se crée. Dans la lecture de romans, j'aime entendre les voix, visualiser les scènes, les personnages. J'ai l'impression d'être en mouvement avec l'histoire, avec les personnages. Et quand ils s'incarnent, parfois, ça s'incarne vraiment au point où je peux les sentir vivants, quoi. Je dis souvent que je suis devenue romancière par accident. Parce qu'en fait, rien n'était prévu pour que ça arrive. Et à la fois, c'est comme si ça pouvait pas être autrement. C'est ma destinée, c'est comme si je pouvais pas y échapper. Alors que tout était fait pour que ça n'arrive pas. C'est en fait la rencontre avec un prof de français qui a été déterminante. Parce que c'est lui qui a vraiment permis ça, que je sois publiée, en donnant un début de texte à sa sœur qui était éditrice à l'époque. Mais le fait d'écrire, en fait, mon lien à l'écriture, ça, c'est en dehors des circonstances. Je l'ai toujours eu, depuis toujours. Et je pense que je l'aurai toujours, même si un jour j'arrête de publier. Écrire, pour moi, c'est vraiment nécessaire dans le sens de c'est ma manière la plus naturelle de m'exprimer. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée, en tout cas. Pour chaque livre, c'est-à-dire chaque moment d'écriture, ça a été différent. J'en ai écrit 6 en tout et je dirais qu'à chaque fois, ça, qu'il n'y a pas de règle, quoi. Il y a eu des écritures plus ou moins joyeuses, plus ou moins rapides, d'autres qui ont été plus, je dirais, bouleversantes émotionnellement parlant, qui m'ont plus coûté. Et après, sur la routine, les rituels d'écriture, toutes ces règles, pour être honnête, ça m'échappe un peu. C'est-à-dire, j'ai lu plein de fois des articles sur les routines d'écrivains, comment Balzac ou Hugo ou des auteurs américains ont écrit. Et il fallait qu'ils marchent, ensuite s'isoler dans un bureau pendant des heures. Bon, après, voilà, hein, on n'a pas tous cette possibilité de marcher dans la forêt et de s'isoler dans un bureau pendant des heures pendant que, je suppose, des femmes s'occupent du confort et du reste. Donc, et puis même les routines et les rituels, pour moi, quand j'écris, je sors un peu de ça, justement. Et je crois que longtemps, ma manière d'écrire, c'est-à-dire tout dans l'instinct, tout dans l'instant, dans le présent, m'imprégner, en fait, sans forcément en avoir conscience, de la vie et des rencontres et des histoires et de ce que j'ai dans mon imaginaire. Et puis laisser la chose jaillir, en fait, à n'importe quel moment, laisser venir les mots et laisser les émotions se traduire en mots, en phrases. Regarder, on va dire, l'histoire se bâtir au fur et à mesure. Ça, c'est cette chose très instinctive. En fait, pendant longtemps, ça me paraissait pas sérieux comme façon de faire. Ça me paraissait... pas sérieux, ouais. J'avais l'impression que c'était incorrect, que j'étais comme une mauvaise élève et que c'était absolument pas la bonne méthode. Et ça m'a pris du temps, mais j'ai heureusement compris que c'était la meilleure façon de faire, sans me conformer en fait ou me limiter, puisque c'était ma façon de faire à moi. Donc le livre que j'ai choisi, c'est La prochaine fois le feu de James Baldwin. Donc le titre original en anglais, c'est The Fire Next Time. Là, je le tiens dans ma main, le livre. C'est l'édition d'ailleurs de poche Folio, qui est sortie il y a 2 ans environ, avec une très jolie préface de Christiane Taubira. Donc ce livre est un essai qu'on pourrait diviser en 2 parties. La première, donc, c'est une lettre adressée à James, qui est le neveu et filleul de Baldwin, qui a 15 ans. Dans cette lettre, qui est incroyable, bouleversante, Baldwin, en fait, raconte sans détour et parle à son neveu des enjeux d'être un jeune homme noir dans un monde blanc et hostile. Et c'est comme une sorte de mode d'emploi éclairé où donc Baldwin confronte son neveu à sa condition et le met... en lien avec le futur de l'Amérique. La deuxième partie de La prochaine fois le feu, ça s'intitule Au pied de la croix, lettre d'une région à mon esprit. Et je tiens à dire que déjà, même les titres sont incroyables. Là, Baldwin, en fait, il traverse son enfance à Harlem. On comprend que c'est un surdoué, que c'est déjà un gamin qui est plus complexe que ce qui paraît. C'est déjà un orateur formidable et il est... pratiquement déjà un prédicateur, donc il parle de foi, il parle de Dieu, il parle d'un Dieu des Noirs et d'un Dieu des Blancs, et de comment construire une nation honnête qui se regarde en face. J'ai lu ce livre donc il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans. J'avais pas lu cet essai, mais j'avais lu d'autres œuvres de Baldwin. Mais pour tout dire, ça a été un choc. J'avais lu des œuvres de fiction de lui d'ailleurs. Et là, ça a été quelque chose de très fort pour moi. C'est comme si son message s'adressait à moi directement, en particulier, et aussi à l'humanité tout entière. Et à ce moment précis, ça correspondait en fait complètement avec aussi mon propre chemin que j'étais en train de faire sur ma place de romancière, sur ce que j'avais envie de raconter, envie de transmettre, sur ma place dans la société, sur mon rapport au mien, sur tout ça à la fois en fait, parce que c'était difficile de déconstruire toutes ces choses. Et quand j'ai lu La prochaine fois le feu, j'avais donc 33 ans, je venais de sortir un roman à l'époque, Millennium Blues, et là je me suis reconnue tellement fort. Et Baldwin, je me reconnais tellement en lui que ça bouleverse mon positionnement. C'est-à-dire qui je suis, moi, en tant qu'écrivain, en tant que femme, en tant que musulmane, que franco-algérienne, que fille de colonisée. C'est comment je me positionne, où je mets mes pieds dans le monde, sur quelle terre je me pose. Se reconnaître dans une œuvre, en fait, dans un personnage, dans une histoire, être en résonance avec un livre... Pour moi, c'est se lier à l'autre, à son humanité. C'est sortir de soi, mais y revenir d'une certaine façon parce que on saisit une part de soi chez l'autre. Et c'est ça que je trouve en fait magique. Le passage qui a provoqué comme un petit séisme à l'intérieur de moi, c'est celui-là. Il faut beaucoup de souplesse spirituelle pour ne pas haïr celui qui vous hait et dont le pied écrase votre nuque. Et ne pas apprendre à le haïr exige une sensibilité et une charité encore plus miraculeuses. C'est le passage que j'ai choisi comme épigraphe pour mon dernier roman, La discrétion. Ce passage m'a touchée profondément, et même si j'essaie d'expliquer vraiment ce que ça m'a provoqué comme sensation, j'y arriverai pas très bien. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça parle de moi, ça parle de nous, ça parle de mes parents, ça parle de la dignité de nos mères, et ça a fait comme une implosion, en fait, en moi. Et alors que j'étais en train d'écrire donc le roman, quelques mois plus tard, La discrétion, ça a été une évidence que cet extrait allait avoir sa place quelque part dans ce roman, et donc j'ai choisi de le mettre en exergue, ça me paraissait vraiment évident. Il y a une profondeur telle dans ce texte qu'il s'applique encore à nos réalités d'aujourd'hui. Dans La prochaine fois, le feu, il est question d'humanité, en fait. Et au-delà de donner des clés sur ma perception de moi, sur mon histoire de fille d'immigrée, d'ancien colonisé, de tout ça, ce livre, il donne aussi des clés sur le dépassement de sa condition, de qui on est pour se lier à l'autre. Parce que moi, malheureusement, j'ai été consciente de ma condition de fille d'Algérien pauvre qui a grandi en banlieue, bien avant de découvrir Baldwin, hein, j'ai pas eu le luxe de découvrir le racisme d'une manière théorique dans un livre. Donc, il ne m'a rien appris en ce sens, si ce n'est à nommer en fait les choses, sans complexe, à dire race, à dire blanc, à dire noir, à dire arabe, à dire les conséquences pour notre cas, c'est-à-dire sur l'histoire française et sur mon histoire, à dire les conséquences de l'empire colonial. Sur aujourd'hui, sur nos vies et sur celles qu'ont été celles de nos parents. Le lien que moi je peux faire avec aujourd'hui, dans la dimension politique de ce texte, c'est qu'en effet, aux États-Unis comme en France, les choses malheureusement n'ont pas évolué comme l'aurait espéré Baldwin. Et la majorité dominante, malheureusement, ne se regarde toujours pas, c'est-à-dire on n'a toujours pas conscience de son privilège. Et la question, en fait, cette question même, elle est encore laissée aux minorités. C'est-à-dire c'est encore aux minorités d'y réfléchir, de poser les questions, d'écrire là-dessus. Alors que ce que dit Baldwin, en vérité, c'est que c'est l'affaire de tous. Et en fait, c'est aussi et surtout l'affaire des dominants de se préoccuper de ce qu'est la nation, de c'est quoi faire nation. Et quand on veut, et quand on a le désir, et qu'on est idéaliste quelque part, parce qu'il faut être quand même idéaliste pour écrire... On veut un monde juste, et c'est un monde qui doit être pensé par tous, pour nous et pour nos enfants, pour les suivants. Mon sentiment, c'est l'injustice de passer d'un monde qui ignore ce à quoi il accède même pas en rêve, à un monde qui ignore, lui, totalement son privilège d'accéder à tout. Comme si c'était un dû, en fait, au point de mépriser celui qui n'est pas dans cette situation. Au sujet de la déclaration de Baldwin, qui dit « Et ces gens ne lisent même pas. Dans la misère, ces gens ne trouvent ni énergie, ni temps, autant qu'il est possible de s'en rendre compte. Les populations prospères qui pourraient leur venir en aide ne lisent pas non plus. Elles se contentent d'acheter des livres et de les dévorer, mais pas afin d'apprendre, afin d'apporter une certaine variété aux airs qu'ils se donnent. » Moi, je comprends très bien ce que raconte cette citation. La lecture permet ce que la pauvreté empêche, c'est-à-dire accéder à d'autres mondes que le sien. Pour moi, c'est ça, en fait. Mais la lecture, pour moi, c'est un privilège, en fait. C'est un voyage auquel on devrait tous être initiés. Malheureusement, la misère, ça peut priver de ça. C'est une réalité. En France, on a quand même l'école républicaine qui, en théorie, est un espace d'égalité à ce niveau-là, qui est un espace merveilleux dans lequel on peut offrir l'accès à la culture pour tous, dans lequel on peut inviter les enfants à lire, les initier. Moi, j'en profite d'ailleurs pour dire à quel point j'admire les enseignants, en fait, les profs qui transmettent ça aux enfants et à des enfants en particulier qui n'ont pas forcément l'opportunité de lire en dehors, qui n'ont pas forcément cet accès. Et comme je l'ai dit, j'ai fait partie de ces enfants. Nous n'avions pas de livres à la maison, mais nous écoutions des histoires. Et ça, même le fait de le valoriser et de dire à ces enfants, des livres, vous en avez peut-être pas, mais des histoires, vous en avez des tas. Et moi, j'y ai été particulièrement sensible. C'est une fausse croyance de penser qu'on trouve chez les pauvres, dans ces environnements-là, dans ces familles, aucun intérêt pour ces choses, pour les livres. Moi, j'ai toujours vu plutôt le contraire. J'ai toujours vu une admiration, voire une fascination pour les livres, l'apprentissage, le savoir, etc. Et un encouragement à y accéder. Et ce qui est triste, c'est que j'ai vu cette admiration, mais avec une certaine distance. C'est-à-dire que comme si ça disait « c'est pas fait pour nous, mais peut-être ça peut être fait pour nos enfants ». Et Baldwin, avec son don pour les mots et sa capacité en fait à traduire et justement à naviguer entre différents mondes, grâce à sa position aussi, à l'intersection en fait entre différentes catégories, et ben pour moi c'est clairement le plus lisible et le plus audible des génies de sensibilité et d'intelligence que j'ai lus. Et pour moi, La prochaine fois, le feu, c'est un essai qui est vraiment à la portée de tous, tant il est accessible et fort à la fois et puissant. En revanche, il n'est pas à la portée de ceux qui n'ont pas d'intérêt pour l'humanité des autres. La plume de Baldwin, elle est exigeante. Elle est d'une sensibilité qui est incroyable pour moi, vraiment. Elle est poétique, elle est dure en même temps. Et puis, voilà, elle est trempée dans l'encre du réel de l'époque, donc elle est nécessaire. Pour moi, la magie de son écriture, c'est que encore maintenant, ça nous parle de ce qui nous constitue. Et en plus, oui, l'humour et l'ironie dont elle est teintée, ça renforce le propos d'une manière extrêmement subtile. Ce qui est fou, c'est que voilà, Baldwin, c'est un auteur américain noir, homosexuel, né en 1924. Mais toute la force de la littérature, c'est que son universalité peut toucher tout le monde, même sur des questions qui apparaissent comme des questions hyper singulières. Donc voilà, moi je me retrouve en lui et en sa vision. Et évidemment, vivre les choses dans sa chair, dans son ventre, puis les écrire, bah ça se sent. C'est-à-dire quand on lit, ça résonne d'une manière toute particulière, ça touche la chair. Là, je m'assois à ma chaise de bureau et en fait, sous les étagères dont j'ai parlé tout à l'heure, avec tous mes livres, en dessous, il y a un portrait, un dessin en fait de James Baldwin qui est face à moi. Et c'est en plus mon amoureux qui me l'a offert, donc il a une signification toute particulière pour moi. Voilà, je l'ai en face de moi comme un gardien, comme un compagnon en fait, comme un grand frère. Moi, Baldwin, en fait, il m'a aidé à renforcer ma place en tant qu'auteur. ma place dans le monde, il m'a aidé dans ma position de refuser d'être exclue de l'universel, en fait. Il m'a aidé à comprendre à quel point c'était nécessaire d'empêcher qu'on colonise mon territoire imaginaire, qu'on colonise mon écriture, ma littérature, avec une perception qui n'est pas juste, quoi. J'ai compris que mon territoire, c'est la littérature. J'ai mis des années, vraiment plus de 10 ans, je dirais, à régler les histoires de légitimité autour de ce que je fais. Et ces questions-là, en fait, ce problème-là de légitimité, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, quand on comprend que ce sont des mécanismes, qu'on les décrypte, que ce sont des déterminismes qui vous poussent à le vivre comme ça, à se sentir comme une imposture, et qu'on comprend d'où ça vient, qui en est responsable, comment ça se joue, en fait, ça, on résout des choses en soi. C'est-à-dire qu'on arrête de se culpabiliser, on arrête de faire un pas tremblant pour avancer. Je suppose que ça m'a pris beaucoup de temps et c'était compliqué, mais en tout cas, je l'ai réglé, ce problème de légitimité. Après, moi, j'ai été propulsée à 19 ans dans un environnement à l'opposé de celui qui m'a construite. Et c'était violent. Et maintenant, j'ai pas honte de le dire, que c'était très violent, que j'étais une gamine et que j'avais des choses à résoudre, à régler, qui étaient beaucoup trop lourdes pour mes épaules. Et c'était violent aussi, parce que là, on parle d'écriture et... En fait, c'était violent que ma condition sociale, mon ethnie, mon genre, ma religion supposée, tout ça, et la manière dont l'élite parisienne m'a traitée, c'est-à-dire comme un phénomène de société à observer, pas comme un écrivain, tout ça, ça a conduit en fait à mettre mon écriture et ma littérature au dernier plan, finalement. Je sentais que c'était pas ce qui comptait, parce que on a beaucoup dit à cette époque-là, c'est pas de la littérature, c'était d'abord et avant tout une enfant des banlieues, comme quelqu'un qui pouvait traduire ce qui se passait un peu chez les sauvages, quoi. Il y avait un truc aussi, vraiment de cet ordre-là, très très violent pour moi. Et puis j'étais malheureuse, parce que ça m'a rendue malheureuse de ne pas pouvoir parler de ce qui m'animait. Et de ce qui m'anime encore, c'est mon écriture, mes personnages, les histoires que je raconte, tout ça, quoi. J'en avais marre, quoi, d'être traitée comme un singe savant. Et ça, du coup, ça a renforcé ce sentiment d'illégitimité. Mais bon, au bout de 16 ans, quand même, ça fait du temps, puisque mon premier roman, Kiff Kiff Demain, c'est sorti en 2004. Donc tout ce temps a permis, et toutes ces choses que j'ai traversées ont permis que je reprenne le pouvoir aujourd'hui. J'ai réussi quand même à protéger mon territoire, c'est-à-dire mon écriture, ma littérature. Moi, je refuse maintenant, en fait, strictement tout rôle que je ne choisis pas. À commencer par celui de porte-parole. Je me reconnais tellement dans la manière qu'a Baldwin de se définir quand il dit « je suis un témoin plus qu'un porte-parole ». Parce que James Baldwin, pour moi, c'est pas simplement ses livres, c'est aussi sa position. C'est aussi comment il se situe, lui, en tant qu'écrivain, en tant que témoin de son époque et ce qui se joue pour lui. Ça a été vraiment capital pour moi de me reconnaître dans un écrivain en décalage. Parce que c'est comme ça que je me sens en tant qu'auteur et en tant que personne d'ailleurs. Je me sens décalée. Pour la suite de la journée, on va retourner dans le quotidien, dans le réel, dans la vérité. Je vais m'occuper de ma fille qui entre en CM2. Et on va faire des petits rituels mignons que j'adore avec les fournitures scolaires et tout, parce que j'ai une sorte de passion pour la papeterie. Donc j'adore faire ça avec ma fille. Et ça me rappelle aussi mes rentrées scolaires qui étaient vraiment des moments pour moi hyper importants. Donc on va faire ça. Et Inch'Allah, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on s'apprête à vivre. Et c'est ça qui est bien.
Vous venez d'écouter Faïza Ghen à son micro et elle répondait aux questions de Marie Sala. Elle vous recommande La prochaine fois le feu de James Baldwin, paru chez Gallimard et disponible en poche dans une traduction de Michel Sciamma. Faizagen est écrivaine. Elle vient de sortir « La discrétion » chez Plon. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Amel Almia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Un nouveau podcast est né chez Louis Média. En partenariat avec Nova, il s'appelle Fracas et explore la parole à travers des interviews menées par Charlotte Pudlowski. Vous retrouverez les premiers épisodes sur toutes vos applications de podcast préférées. Bonne écoute et à très vite.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
The Claude 3 model family from Anthropic is your one-stop shop for enterprise AI. With models at every point on the price-performance curve, you no longer have to make trade-offs between intelligence, speed, and cost. Claude 3 Opus sets new industry benchmarks for intelligence. Sonnet strikes the perfect balance between skills and speed. And Haiku is the fastest and lowest cost model in the market, perfectly designed for high volume, high speed use cases. Join the thousands of enterprises who trust Anthropic to keep them at the frontier. Visit anthropic.com/Claude today.